BFM Business présente. BFM Entreprise, leadership, la méthode. Sandra Gondouin.
Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Entreprise consacré comme tous les lundis au leadership. Une demi-heure avec un leader, un patron qui va nous expliquer comment il dirige, son parcours, sa méthode, les clés de sa réussite, les épreuves aussi qui l'ont forgé. Quel meneur est-il ? BFM Entreprise, aujourd'hui, c'est avec Mathias Savignac.
BFM Entreprise, leadership, la méthode, sur BFM Business.
Bonjour Mathias Savignac.
Bonjour Sandra.
Ravi de vous avoir dans Leadership. Vous êtes président de la MGEN. On va y revenir évidemment, mais dans cette émission, je commence toujours par cette question. Est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on le devient ?
Il y a sans doute un peu des deux. Je pense qu'on le devient parce qu'on se confronte à une réalité d'entreprise, de parcours de vie, d'expérience. Mais il y a aussi peut-être un fond de compétition ou d'envie d'avoir le lead parfois sur certaines situations, des trucs peut-être insignifiants, mais organiser une sortie qui s'y colle. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qui relèvent peut-être du quotidien, mais qui aussi se traduisent après dans la vie professionnelle ou l'envie justement d'avoir une action et d'en être un peu à l'origine et de la mener à son terme.
On va voir quelle est votre façon à vous de diriger la MGEN, donc la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Vous n'êtes pas arrivé là par hasard, c'est un groupe mutualiste certes, mais c'est surtout un acteur de soins, dites-vous. Comment vous décririez l'activité de la MGEN aujourd'hui ? Parce qu'il y a beaucoup de choses.
Alors il y a beaucoup de choses, mais si je devais la résumer, on fait trois métiers principaux. Le premier, c'est que on gère par délégation la sécurité sociale des fonctionnaires, et notamment ceux de l'éducation nationale. Depuis l'origine, depuis 1947, on le gère pour le compte de la Sécu. Et puis, on est une complémentaire santé, qui faisons à la fois de la santé et de la prévoyance. Et puis, nous sommes offreurs de soins, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on gère des établissements médico-sociaux, des centres de santé, des EHPAD. Et donc ça nous permet à la fois d'être ceux qui faisons la solvabilisation des soins de nos adhérents, mais on est aussi offreurs, c'est-à-dire qu'on leur permet d'accéder sans dépassement d'honoraires à toute une série de spécialités ou de soins.
Vous êtes un vrai acteur de soins et on va le voir dans cette émission, vous êtes un observateur du secteur par ce poste. Vous avez été professeur des écoles à la base.
Absolument.
Qu'est-ce que ça a forgé chez vous déjà ?
Alors ça fait longtemps, mais peut-être le sens du collectif, et puis l'écoute, parce que quand vous êtes enseignant, vous avez nécessairement besoin d'écouter les besoins, les remarques, pour pouvoir accompagner au mieux les élèves d'une classe. Mais finalement, c'est une continuité pour moi que d'avoir été à la fois enseignant et aujourd'hui d'être à la tête de la mutuelle qui protège les enseignants, parce que on connaît aussi la difficulté de l'exercice du métier, les besoins, les particularités des conditions d'exercice des enseignants. Et donc, ça aussi, la raison pour laquelle ce sont depuis l'origine des enseignants, des enseignantes notamment, mais aussi des gens de l'éducation nationale, de l'administration, qui sont à la tête et qui dirigent la mutuelle.
Alors justement, comment on passe de l'un à l'autre, de professeur des écoles, qui est un métier, voilà, vous l'avez dit, avec des enfants, on est dans une classe, certes on travaille pour le collectif, mais on a un petit groupe oui. Devant soi, même si on travaille beaucoup pour la société. Comment on passe de ce rôle-là à celui que vous tenez aujourd'hui ?
Alors, ça a été à un moment donné de ma vie, le hasard qui m'a fait rencontrer la présidente, j'enseignais à côté de Grenoble, la présidente départementale de la MGEN, Et qui m'a dit, parce qu'on a eu un bout de discussion comme ça, qui m'a dit tu devrais t'intéresser à ce que fait la MGEN, qui est ta mutuelle, et dont je n'étais que finalement consommateur, parce que j'avais des soins, ma mutuelle me remboursait, mais j'avais pas une connaissance particulière de ce qu'elle était, de ce qu'elle faisait. Et donc je m'y suis intéressé, et on a eu un très long échange tous les deux, et je me suis présenté localement à l'élection pour les représentants du département. J'ai commencé comme ça, pendant 2 ans, et puis... Au bout de 2 ans, un poste de direction s'est libéré à Grenoble. Et comme j'étais déjà un peu engagé et que je démontrais une certaine appétence pour ce qui s'y déroulait, on m'a proposé de candidater à ce poste. J'ai été retenu. On était en 2007-2008. Et en 2011, le président de l'époque, Thierry Baudet, de l'AM Jeunes m'a proposé de candidater pour devenir administrateur. Et donc, depuis 2011, une succession de prises de responsabilité jusqu'à la présidence en 2021.
C'est ça. Qu'est-ce qui vous motive dans ces cas-là? Est-ce que c'est toujours le collectif? C'est transformer la société? Parce que vous avez beaucoup de poids sur le secteur. On va le voir. C'est améliorer le sort, effectivement, de tout ce secteur de l'éducation nationale?
Alors, plusieurs choses. Les sujets qui y étaient traité et ce qu'on me proposait de faire, j'ai tout de suite eu un rôle départemental sur des questions de prévention. Et donc j'organisais des manifestations, des ateliers de prévention et j'étais en charge du développement. C'est-à-dire la capacité de la mutuelle à proposer des offres en santé, en prévoyance, des offres complémentaires. Et pour moi, c'était quelque chose d'un peu nouveau et ça m'a énormément intéressé et je m'y suis beaucoup impliqué. Et comme j'avais fait des études d'anglais et d'espagnol, lorsque je suis rentré au conseil d'administration, on m'a proposé de prendre en charge l'activité internationale. Parce qu'on ne sait pas forcément beaucoup, mais la MGEN a une activité internationale importante. Elle a environ 45 000 enseignants dans 170 pays, c'est-à-dire les profs expatriés dans des écoles françaises. Et puis, corollairement à ça, on a développé une activité d'assurance santé à l'international, notamment au Portugal. On a aujourd'hui 155 000 adhérents au Portugal et un peu dans tout le monde. Donc, voilà. Ça a été pour moi aussi des expériences un peu structurantes.
Qu'est-ce qui, d'après vous, sur ces années que vous avez passées à la MGEN, est-ce que, de quelle façon vous l'avez fait évoluer, ce groupe mutualiste ?
Il faut du temps pour l'appréhender, parce que la complexité du monde de la santé et du monde mutualiste, qui fonctionne de manière démocratique, et donc ça c'est aussi un aspect très intéressant de voir de quelle manière des collectifs s'emparent de sujets, débattent, peuvent ne pas être d'accord, et finalement arrivent à trouver une voie de passage pour porter un projet collectif. Et je trouve que, à l'image de ce qui ne se passe pas aujourd'hui dans la société, c'est quelque chose d'assez singulier, parce que finalement c'est une activité politique, enfin une activité démocratique qui engage des gens qui, pour des raisons qui les regardent, enfin, je veux dire, ils deviennent donner du temps à une mutuelle de manière bénévole. Moi, je trouve ça remarquable que des gens aient envie de donner du temps pour se mettre au service de leurs collègues quand c'est des enseignants, mais au final, au service de la société. Parce que quand on a un centre de santé, il est ouvert à tous, il n'est pas réservé simplement à nos adhérents. Et donc, ils aient envie de s'y impliquer, de donner de leur temps. Moi, je trouve qu'être finalement à la coordination, à l'impulsion de ça, c'est extrêmement passionnant et enrichissant.
Il y a un rôle plus large que si c'était une entreprise, mais est-ce qu'on gère un groupe comme celui-ci, un très gros groupe, justement comme une entreprise? Est-ce qu'on prend les décisions de la même manière? Est-ce qu'on décide de la stratégie de la même manière? Ou c'est complètement différent?
On est à la fois une entreprise et à la fois un mouvement. Un mouvement social, parce que le mutualisme, en tout cas dans la fonction publique, est né juste à l'après-guerre. Nos organisations sont nées aux côtés de la sécurité sociale. Il y avait un grand élan de solidarité, de besoin, de remettre sur pied celles et ceux qui étaient blessés, qui étaient en mauvais état, en mauvaise santé. Et finalement, ça a créé un mouvement très solidaire, très humaniste, très universaliste, finalement à l'image des valeurs portées par la sécurité sociale dès sa création. Et donc, oui, c'est une entreprise, enfin, on est une entreprise de 10 000 salariés, on doit faire quelque chose comme 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et en même temps, on est une société de personnes. C'est-à-dire qu'on ne rémunère aucun actionnaire. L'argent que nous confient nos adhérents est exclusivement destiné à leur rembourser des soins, à leur proposer des services, à innover, à faire de la prévention. Et donc, on a à la fois les contraintes d'une entreprise, mais toute la liberté de se dire que finalement, notre action, elle dépend de notre organisation démocratique. Ce sont les adhérents en Assemblée Générale qui décident de mettre la priorité sur tel ou tel aspect. Et donc, c'est extrêmement passionnant parce que le champ des possibles est tellement large qu'il faut arriver à prioriser et à structurer un vrai projet.
Vous avez justement, par cette forme, par ce profil, initié ce qu'on ne voyait pas entre des entreprises. Vous avez créé des alliances avec vos concurrents qui sont Absolument. Devenus des partenaires. Eux, ce sont des entreprises purement privées qui n'ont pas justement cette vision que vous avez. C'est ça qui a fait que vous avez un petit peu dépassé les limites pour avoir un fonctionnement, qui soit un peu plus au service de l'autre.
Alors, principalement, nos partenaires, ce sont aussi des mutuelles. Principalement. Mais finalement, avec l'évolution de la protection sociale dans la fonction publique, c'est-à-dire la généralisation des contrats collectifs obligatoires, comme dans le privé il y a une dizaine d'années, aurait pu amener, d'ailleurs l'a fait parfois, le secteur à rentrer dans une forme de concurrence mortifère où chacun essayant de battre l'autre s'affaiblissent mutuellement. Et moi, ma conviction très tôt, c'était de me dire chaque fois qu'une mutuelle va rentrer en confrontation directe avec une mutuelle, les deux vont s'affaiblir. Et pour moi, ça fait le lit des assureurs privés lucratifs, des assurtech qui se développent aussi beaucoup dans la période. Et donc, finalement, de manière un peu plus conceptuelle, l'idée, c'était d'appliquer les principes du mutualisme aux entreprises, c'est-à-dire faire à plusieurs ce que seul on aurait du mal à faire. Pour le dire autrement, j'ai eu l'occasion de lire des études d'éthologie qui dit qu'il y a une deuxième loi de la jungle, et que la loi de la jungle, la vraie loi de la jungle, c'est la loi de la coopération. C'est-à-dire que dans la nature, les espèces qui survivent, ce sont les espèces qui coopèrent et qui s'entraident. Et donc c'est ce qu'on a fait finalement à l'intérieur de la sphère mutualiste. Et aujourd'hui, tous les partenariats qu'on a noués nous ont permis de remporter les appels d'offres auxquels nous avons candidaté, ce qui est finalement une grande satisfaction pour nous de voir que ces principes-là s'appliquent et se vérifient même au niveau des entreprises.
Il faudrait peut-être presque les faire sortir de ce secteur-là, cette autre loi de la jungle.
Je pense que la coopération n'est pas privatisée par le monde mutualiste. Beaucoup d'entreprises d'ailleurs coopèrent et créent de la valeur ajoutée à leur coopération parce qu'elles additionnent des talents, des compétences, des visions, des savoir-faire. Et plutôt que de se systématiquement se dire qu'il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant, je pense qu'on peut gagner, on peut être tous gagnants quand on met les moyens justement pour regarder le marché, les offres ou la concurrence d'une manière un peu différente.
Vous êtes un grand observateur évidemment du secteur de la santé. J'aimerais savoir ce que vous avez vu, ce qui vous inquiète pour la santé de demain. On le sait et c'est pas encore dans notre culture, on est dans une santé qui guérit, on n'est pas dans une santé de la prévention, alors que c'est ce vers quoi il faudrait qu'on aille. Qu'est-ce que vous voyez, vers quoi on va dans ce secteur-là?
Bon, je crois qu'on est condamné à aller vers la prévention. On voit qu'aujourd'hui, le soin est de plus en plus coûteux. D'ailleurs, tous les ans, lorsque se négocie le PLFSS, chacun dit les coûts de la santé augmentent, il y a une dérive des dépenses parce que la technicité des pratiques augmente, parce que l'IA, les robots qui permettent de faire des opérations incroyables mais qui coûtent une fortune, les traitements contre le cancer, les maladies chroniques, il y a une inflation des coûts, mais parce que la recherche aussi avance. Et donc on est dans une société du curatif. Je pense que moi, une des manières de décélérer sur la, sans abaisser le niveau d'excellence de notre monde de la santé, mais de se dire qu'en fait, il y a plein de maladies, plein de situations qui sont évitables. Parce que on connaît mieux finalement les facteurs qui créent certaines pathologies, parce qu'on est capable d'avoir une action populationnelle, c'est-à-dire d'envoyer les bons messages, les bons dispositifs aux bonnes personnes. Il faut à la fois faire de la prévention en grand public, les grands messages de santé publique sur les 10 000 pas, les 5 fruits et légumes, mais il faut aussi arriver à cibler les personnes qui ont des besoins spécifiques parce que des conditions de vie particulières. Et ça, aujourd'hui, on commence à le faire. Mais ça nécessite aussi des moyens et donc réallouer sans doute une partie de l'argent public sur ou privé d'ailleurs, parce que nous-mêmes nous faisons de la prévention, mais arriver à avoir une action qui soit véritablement efficace et ciblée pour s'éviter ça. Il y a aujourd'hui des aides qui sont extrêmement précieuses de la part de la médecine prédictive, de la part de l'intelligence artificielle, qui permettent sur des masses de data absolument colossales de tirer des spécificités, de voir des besoins qu'on n'observait pas jusque-là. Et donc, ça nécessite aussi à la fois de s'intéresser bien évidemment à tout ça, mais de ne jamais perdre de vue que des gestes simples, une activité physique, une alimentation saine sont aussi des facteurs et des leviers d'une bonne santé. Et ça, c'est un investissement pour toute une vie.
Vous avez d'ailleurs créé des programmes.
Absolument.
Le sport, dans cette optique. Justement, on est en année présidentielle. Qu'est-ce qui vous préoccupe à un an de l'échéance et qu'est-ce que vous aimeriez voir proposer par les candidats pour améliorer ce secteur-là dans un contexte budgétaire qui est extrêmement compliqué?
Alors aujourd'hui, quand on regarde les travaux que mènent les sondeurs, la santé arrive au rang 1 des préoccupations des Françaises et des Français. Et la santé est un sujet qui n'est jamais abordé par les politiques dans quelques débats que ce soit, à l'Assemblée ou ailleurs. Alors à l'Assemblée pendant le PLFSS, et l'objectif c'est de faire des coupes pour que ça coûte moins cher.
Voilà, à chaque fois c'est les coupes.
Le budget, la question budgétaire est importante, mais elle prend toute la place. Aujourd'hui, on se focalise moins sur l'état de santé des Françaises et des Français, sur le monde dans lequel on aimerait vivre collectivement, que sur notre capacité à le financer. Et donc, effectivement, si la santé est au rang des préoccupations, on ne regarde la santé que comme un coût. D'ailleurs, l'éducation, la fonction publique ou les services publics dans leur ensemble ne sont regardés que comme un coût. Trop de fonctionnaires, trop de vacances, trop coûteux. On ne se pose pas la question de savoir à quoi servent les services publics, ce qu'ils représentent, à qui ils se destinent. Et donc, quand vous regardez, enfin, quand vous n'avez pour seul outil qu'un marteau, tout ressemble à un clou. Et quand votre seul outil, c'est le spectre budgétaire, tout ressemble à un coup. Et donc voilà, c'est une mécanique assez redoutable, parce que quand on est la même jeune, en fait, on est à cheval entre deux mondes, la santé et l'éducation. Mmh. Santé et éducation, c'est le ciment de notre société. La santé de la population et l'éducation à la citoyenneté. Et aujourd'hui, quand vous regardez ça comme un coup, évidemment, le projet politique ou le projet de société est quand même singulièrement gommé par cette approche budgétaire.
Alors justement, je vous dis, est-ce que vous attendriez finalement une proposition, mais ce que vous me répondez, c'est que c'est la façon dont on voit les choses aujourd'hui. On a l'impression qu'on réussit plus à en sortir de ce discours politique-là. Est-ce que c'est encore le rôle des politiques ou finalement des actions comme les vôtres à travers la MGEN? Est-ce que c'est plutôt l'action des patrons? L'action de ces initiatives-là qui vont changer la société. D'ailleurs, dans un récent sondage, la population reconnaît que les patrons sont finalement extrêmement utiles à la société, qu'ils ont une opinion positive, ce qui n'était pas le cas quelques mois avant. Est-ce qu'on s'est rendu compte que finalement les initiatives les plus efficaces viennent des patrons?
Alors peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut le dire de cette manière-là, mais il y a une forme de désamour des Françaises et des Français pour... Je ne sais pas si c'est la chose politique, mais en tout cas pour les politiques, assurément. Et donc aujourd'hui, l'action politique est limitée par le fait qu'il y a une forme de moindre légitimité des politiques à l'action. De mon point de vue, les politiques ont trois caractéristiques qui leur permettent de faire. C'est l'inscription dans le temps long, la légitimité à agir et la capacité à agir. Quand on voit l'inscription dans le temps long, finalement, quand vous passez votre temps à regarder votre cote de popularité ou le baromètre de satisfaction... On peut pas dire que vous portez le regard très loin. Quand l'abstention, pardon, quand l'abstention devient un peu la règle, finalement votre légitimité à parler au nom des gens que vous êtes supposés représenter est affaiblie. La manière dont se passent les débats à l'Assemblée nationale sont quand même assez parfois catastrophiques. Et puis, pour le coup, la question budgétaire limite la capacité d'action de l'État.
Sûr.
Regardons maintenant les entreprises. L'inscription dans le temps long, quelle que soit votre activité, il y a une réglementation, la RSE, les impacts, les externalités négatives, tout ça amène les entreprises à adopter finalement des principes et des politiques pour lutter contre le réchauffement climatique, contre le carbone, la production de carbone. Et finalement, mécaniquement, vous avez forcément un prisme de temps long. La légitimité à agir. Malgré tout, aujourd'hui, vous avez des salariés qui veulent mettre du sens à leur activité. Vous avez des clients, des adhérents qui veulent consommer de manière plus vertueuse. Et puis surtout, quand vous êtes dans l'entreprise, vous dégagez des bénéfices. Et donc, vous avez une capacité d'agir. Après, encore faut-il le vouloir. Mais on regarde, vous regardez Michel-Édouard Leclerc sur la question du pouvoir d'achat. On peut dire ce que l'on veut, mais il agit concrètement tous les jours pour que les Françaises et les Français se nourrissent, s'habillent, consomment moins cher. Vous avez d'autres patrons qui décident de s'engager pour telle cause ou telle cause. Enfin, c'est aujourd'hui le patron est sans doute moins regardé comme quelqu'un qui a eu l'œil rivé sur le résultat économique. Il doit l'avoir mécaniquement, obligatoirement, parce que il a la responsabilité d'emploi d'un secteur économique, mais il est aussi intéressé par la chose sociale, par la qualité de vie au travail, par la protection sociale, par l'habitat. Enfin, quand vous mettez en place du télétravail, et donc vous dites aux gens, vous pouvez travailler de chez vous, vous ne pouvez pas vous désintéresser de la manière dont les gens sont logés. Et donc tout ça, pour moi, c'est comme si on revenait sur les entreprises, vous savez, du 19e, la sidérurgie, les grandes entreprises, qui offraient des vacances, l'école, le transport, l'économat.
Qui prenaient tout en main, finalement.
Exactement. Oui. On revient à cette forme-là,
oui.
Le paternalisme en moins, la responsabilisation en plus.
Et la confiance, finalement,
exactement,
revient de cette façon-là, moins de discours et plus
d'action.
De solutions, plus d'action. On va passer à la photo tout de suite.
BFM Entreprise, leadership, la méthode.
Je demande à chacun de mes invités de venir avec une photo. Vous avez choisi de nous donner celle-ci. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi cette photo.
Alors, j'aime bien celle-ci parce qu'elle correspond à un événement qu'on organise plus ou moins régulièrement, d'ailleurs qu'on appelle la Conférence des Territoires. Et on réunit une grande partie de nos militants pour parler de projets. Et donc, pour moi, cette photo symbolise deux choses. Le collectif, c'est-à-dire la capacité à rassembler de la diversité géographique, mais aussi culturelle, de parcours, d'avis, d'opinions, et autour de ça, arriver à se focaliser autour d'un même projet pour se forger un plan stratégique. Et moi, je trouve ça riche parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les débats, plus personne ne veut débattre.
Non.
Vous voulez juste avoir raison. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui. Il y a un refus de l'altérité, l'autre est vu comme quelqu'un qui peut vous nuire, et il n'y a aucune culture de la nuance. Et je trouve que dans des organisations comme la MGEN, et c'est pas la seule, mais on arrive à faire vivre ces éléments-là d'écoute de l'autre, de nuance. Et donc c'est important parce que je considère que la démocratie, si elle ne fait pas preuve de nuance, qu'elle n'accepte pas l'altérité, elle ne peut pas fonctionner. Alors nous sommes des petites démocraties, mais nous sommes quand même des démocraties. Et puis, j'aime bien parce que je fais partie finalement d'un collectif. J'ai une responsabilité particulière, c'est-à-dire que apporter une vision, proposer une stratégie, mais elle n'est pas décidée seule. C'est-à-dire que je ne suis pas celui qui dit on fait comme ça et puis c'est tout. Non, c'est partagé. On partage le sens de l'action, on partage les finalités et finalement ça amène à bouger des lignes, à amender, à enrichir. Et je trouve que ce processus itératif de construction de projet est extrêmement intéressant.
Donc diriger ces collectifs.
Diriger ces collectifs.
Quoi qu'il arrive, c'est les remontées terrain,
oui.
Et c'est ça.
Et ça n'enlève rien à votre responsabilité, à votre rôle, que d'écouter et que d'associer.
On va passer à la fin de l'émission.
BFM Entreprise, leadership, la méthode.
Oui, parce que le temps passe extrêmement
oui.
vite. Alors, je vais vous poser une dernière question, Mathias Savignac. On l'a dit, vous êtes président de la MGEN, vous êtes président du Conseil de la Fondation de l'Avenir, vous êtes président de Vive Invest. Vous venez aussi d'être nommé à l'Ordre National du Mérite. Qu'est-ce qui fait pour vous votre plus grande fierté?
Je mentirais si je disais qu'il n'y a pas une part d'ego qui se dit « Ah, c'est sympa, quelqu'un s'est dit que c'était une bonne idée, que finalement l'action que je peux parfois initier amène quelque chose ou crée quelque chose pour une entreprise ou pour la société. Mais en fait, je la reçois parce que toutes celles et ceux qui m'entourent et qui travaillent avec moi, par leur travail, par leur action, vous permettent aussi d'être un peu plus dans la lumière ou parfois d'être finalement plus visible par l'action que collectivement on arrive à mener. Parce que, je sais pas si la question du leadership, mais en tout cas, la responsabilité aussi du dirigeant, c'est de communiquer, de faire savoir, de valoriser. Et donc finalement, c'est à la fois une distinction individuelle, parce qu'on a tous notre propre singularité, mais c'est aussi une reconnaissance collective de l'action qui est menée au sein d'une entreprise ou d'une mutuelle.
La reconnaissance d'un fonctionnement qui réussit finalement.
Aussi, sans doute, oui. Enfin, je l'espère en tout cas, parce que on défend ce modèle-là, et peut-être sans doute pas assez, parce que finalement, souvent quand on regarde une mutuelle, on se dit, c'est un truc un peu du passé, ils sont bien sympas avec leur truc là, mais quand même tout ça n'est pas très sérieux. Ben, on peut montrer en fait que on peut avoir 10 000 salariés, gagner des contrats collectifs face à des assureurs privés et qu'on n'est pas moins bon, pas moins efficient, tout en finalement cultivant un certain nombre de valeurs de solidarité, de démocratie. C'est pas antinomique du tout.
Une toute dernière question, que diriez-vous à un jeune qui vous dit dans la vie mon ambition c'est ça, c'est de diriger un grand groupe, de prendre des décisions, d'avoir une vision de l'avenir. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez?
Moi, je lui conseille. Enfin, déjà, je trouve que c'est très bien que des gens aient envie, finalement, de s'engager, de prendre des responsabilités, de vouloir finalement présider à l'avenir, à la destinée d'une entreprise, d'une mutuelle. Simplement avoir à l'esprit que seul on peut pas. Et donc, il faut aussi savoir s'entourer. Moi, j'estime que j'ai réussi à m'entourer de personnes de grande valeur qui, sur bien des domaines, sont bien meilleures que moi. Et c'est très bien de savoir s'entourer de gens qui sont meilleurs que vous dans certains domaines, c'est même essentiel. Et je leur dirais donc d'être attentif à ça aussi, à celles et ceux qui vous entourent, parce que seul, vous pourrez faire des choses sans doute, mais pas donner sa pleine mesure à finalement cette richesse collective.
Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, Mathias Savignac.
Merci à vous, Sandra.
Ravie de vous avoir reçu dans Leadership. Si vous voulez aussi connaître la méthode des leaders, l'émission est disponible en replay, en podcast et évidemment sur tous nos réseaux sociaux. Tous les lundis, 12h30 sur BFM Business. Très bonne journée.
BFM Entreprise, leadership, la méthode sur BFM Business.